C'est la chronique Le Monde et la vie au travail avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie.
Bonjour Anne.
Annie, aujourd'hui, on va bien sûr rappeler que depuis le 1er janvier 2026, les entreprises ontariennes sont soumises à une nouvelle législation. Alors, toi et moi, ce matin, on va faire le point, plutôt toi, on va faire le point sur le sujet, ainsi que les parallèles là, avec la réalité québécoise.
Alors, depuis effectivement le 1er janvier 2026, ça fait que c'était tout chaud, tout frais,
oui.
Les entreprises ontariennes de 25 employés et plus doivent adapter leur processus de recrutement. En gros, ils sont assujettis à 4 nouvelles règles. D'abord, un, ils doivent préciser si l'intelligence artificielle est utilisée dans le cadre du processus de recrutement.
Mm-hmm.
Deux, il faut afficher l'échelle salariale avec un maximum de 50 000 entre l'échelle le plus bas et le plus haut. Tu m'as entendu sourire, c'est sûr que Anne, 50 000, c'est une très grande échelle salariale,
oui.
Mais bon, c'est un pas dans la bonne direction. Peut-être noter que l'employeur n'est pas obligé de payer la rémunération annoncée, mais quand même. Je suis contente de te parler de ces avancées parce que
oui.
C'est pour les employés, c'est au bénéfice des employés. Mais je t'explique ça dans une seconde. La troisième élément que les entreprises doivent faire, c'est préciser s'il s'agit d'un poste vacant. Puis la dernière chose, c'est informer les candidats qui ont passé une entrevue dans les maximum 45 jours après l'entrevue de où ils en sont avec le processus de recrutement.
Annie, en quoi c'est utile pour les employés de savoir si l'IA, l'intelligence artificielle, est utilisée dans le processus de recrutement?
Moi, je trouve, Anne, que c'est super utile. D'abord, c'est selon les bonnes normes de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Oui.
Peu importe ce qu'on fait, que ce soit une image, une vidéo, un processus de recrutement, lorsqu'on utilise l'IA, il est recommandé de le nommer.
Mm-hmm.
Mais en plus de ça, c'est que ça permet aux gens de savoir comment leur CV va être évalué, sous quel angle et sur quoi porter leur attention. Je te donne un exemple, Anne. Il y a des gens qui, c'est pour eux, c'est bien important que leur CV fitte sur une page ou deux pages. Puis parfois, ils vont même sacrifier des idées parce qu'ils veulent pas que ça tombe sur le début de la troisième page.
Okay.
Mais quand on sait que le CV est vu par l'IA, l'IA, ça dérange pas, là, deux pages et quart. Alors, ça permet de se focusser sur les bonnes choses, soit le choix des mots, s'assurer d'avoir les bons mots qui sont dans la description de poste,
ouais.
Versus sur la longueur du CV. Puis, je donne un autre exemple aussi, les processus de recrutement, les entrevues de sélection au début. Souvent, elles sont faites avec l'intelligence artificielle aussi maintenant. Je trouve que c'est le fun pour le candidat de savoir, vais-je rencontrer un humain ou vais-je rencontrer un avatar? Tu sais, on se prépare pas de la même façon dans notre tête.
C'est vrai,
Mm-hmm. En ce sens, je trouve que c'est utile.
Annie, au niveau de la transparence salariale, en quoi c'est bénéfique pour les travailleurs, travailleuses?
Oui. Alors là, on se parle, tantôt on parlait des échelles salariales que les entreprises doivent afficher.
Mm-hmm.
C'est exactement ça, la transparence salariale. Donc, il va de soi que ça ne veut pas dire qu'on va publier les salaires des gens, mais bien les échelles salariales.
Mm-hmm.
La raison pour laquelle je suis tellement excitée de te parler de ça, Anne, c'est que je trouve que c'est une avancée. Pour les employés qui sont en poste, tu sais, il y a des gens, là, ils n'ont pas l'intention de changer de job cette année. Ils sont bien. Des fois, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans leur poste. Mais ils finissent par se poser la question, est-ce que je suis équitablement rémunéré par rapport à mes collègues? Puis c'est pas partout qu'on est confortable d'aller dire au monde, hey, t'es payé combien? C'est quoi ton salaire? Alors, ce processus de transparence salariale, ça permet, au fur et à mesure que l'entreprise va vouloir recruter pour des gens dans l'équipe, de mettre à jour l'échelle qui est utilisée. Comme ça, les gens qui sont en poste depuis longtemps, ils ont une référence. S'ils voient que leur salaire est en deçà de l'échelle salariale utilisée pour recruter des nouvelles personnes, bien, ça ouvre la porte à une conversation avec l'employeur.
Mm-hmm.
Même souvent, ça responsabilise l'employeur pour faire les ajustements avant même de publier les échelles salariales. Donc, ça permet une vigie en continu, notamment pour ceux qui ne sont pas en train de changer d'emploi ou d'avoir besoin de cette vigie-là.
Exact. Puis, en quoi c'est pertinent de préciser s'il s'agit d'un poste vacant?
Anne, tu te souviendras, à ton micro, nous parlions il y a quelques mois des fausses offres d'emploi et
oui.
Des stratagèmes pour frauder. Hein?
Oui.
Alors, stipuler s'il s'agit d'un poste vacant, c'est un pas dans cette direction-là. On veut protéger les gens qui appliquent sur les postes et on veut leur donner cette information. En simple, un poste qui est vacant, ça veut dire que c'est un poste qui a été occupé par quelqu'un dans le passé. Là, il s'est passé quelque chose, la personne a quitté ou elle a eu une promotion, peu importe, on veut pourvoir le poste. Ça donne une indication aux gens qui recherchent un emploi que c'est plus, disons, un peu plus crédible. Je le mets entre guillemets, Anne, parce qu'il y a aussi des entreprises qui créent des nouveaux postes. Il y a des entreprises qui sont en croissance. Hier, il n'y avait pas besoin de quelqu'un, mais là, aujourd'hui, ils veulent créer un nouveau poste. Ça se peut. Mais quand il y a des processus de fraude puis des processus de fausse offre d'emploi, c'est généralement camouflé dans cette deuxième catégorie de postes non vacants, c'est-à-dire des postes qui ont été créés soit récemment, pour vrai ou moins pour vrai. Donc, ça l'aide les gens à se protéger puis à savoir qu'est-ce qui se passe.
Aussi, Annie, en terminant, c'est important d'informer les candidats 45 jours après l'entrevue?
Oui, Anne. Puis ça, c'était fait. Là. Moi, je me dis, les entreprises québécoises, elles n'ont pas besoin d'attendre une législation pour prendre action là-dessus. Ouais. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Quelqu'un qui s'est déplacé pour une entrevue, pour un poste, on lui doit de le tenir au courant et de lui, du processus puis de lui donner des nouvelles de son processus.
Le plus rapidement possible.
Ben c'est ça.
Ouais.
C'est que des fois, il y a des entreprises... Bon, attends. Commençons. Il y a des gens qui déposent leur CV puis qui aimeraient avoir une réponse de l'employeur après avoir soumis un CV.
Mm-hmm.
Ça, là-dessus, je dirais, Anne, prenons notre gaz égal parce que les entreprises reçoivent beaucoup de CV, ça serait difficile à faire. Mais ceux qui se sont présentés en entrevue, là, ils ont droit à une réponse, mais surtout, ils ont besoin de planifier leurs affaires, puis aussi, ils ont souvent plein de... Tu sais, leurs collègues, leurs amis, leur famille, conjoints, conjointes. Puis, tu sais, ils se font demander comment ça va ton processus de recherche d'emploi.
Je ne sais pas encore.
Ben oui, c'est plate quand tu n'as jamais rien à dire ou tu sais, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles. Mm-hmm. Alors, ça, obliger les entreprises à faire un suivi dans les 45 jours, je trouve que c'est humain. Puis moi, je pense que toutes les entreprises gagneraient à faire ça parce que c'est leur précieuse marque employeur. C'est leur, il en va de leur propre réputation.
Encore une fois, Annie Boilard, merci énormément pour toutes ces informations très pertinentes. On va se retrouver la semaine prochaine, lundi, même heure, même poste. Bonne semaine.
Avec plaisir, Anne. Bonne
semaine. Merci.